un éclatement soudain, mais qui s'inscrit dans un contexte qui est très clair, qui est celui du calendrier électoral. Il est censé avoir des élections à la fin de l'année en RDC. Et ce calendrier électoral, malheureusement, ne pourra pas être respecté parce que le gouvernement sabote l'organisation des élections. Et donc, parallèlement à ça, il y a un dialogue qui est sponsorisé par l'Union africaine pour essayer de mettre d'accord à la fois le parti au pouvoir et puis l'opposition sur un nouveau calendrier électoral. Et en fait, cette explosion de violence est liée à ce dialogue, c'est-à-dire que les Congolais ont le sentiment que ce dialogue va en quelque sorte repousser les élections à une date qui risque d'être lointaine et va aboutir à une sorte de tractation qui vont les priver des élections.
Est-ce que ce type de mouvement insurrectionnel, comme l'appelle le ministre de l'Intérieur congolais, ou ce type de soulèvement est finalement récurrent en RDC ?
Ce n'est pas le premier épisode violent lié au processus électoral au Congo, puisque le premier, c'était en janvier 2015, quand le gouvernement avait tenté de changer la loi électorale pour pouvoir rester au pouvoir. Donc on est en fait dans la progression, si je puis dire, de la tension et le début d'une crise électorale très très dangereuse en République démocratique du Congo.
Comment on explique ce blocage permanent entre l'opposition et notamment Kabila qui veut absolument trouver des moyens de rester au pouvoir même si la Constitution l'interdit ?
Il y a une confrontation évidente entre une opposition qui insiste sur le respect de la Constitution qui prévoit que des élections aient lieu à la fin de l'année et un président qui a l'intention de rester au pouvoir. Donc on est dans une confrontation qui est, j'aurais tendance à dire, caricaturale entre ceux qui veulent le changement et ceux qui ne le veulent pas.
Les partis politiques d'opposition appellent malgré tout à poursuivre cette mobilisation contre le président Kabila. On a l'impression que la rue est leur dernier recours. Qu'est-ce que ça traduit ?
Ça traduit un ras-le-bol complet de la population congolaise, un ras-le-bol qui, à mon avis, est assez peu contrôlable par les partis d'opposition. On a vu, par exemple, qu'en janvier 2015, les violences avaient débuté sans même mot d'ordre de l'opposition, en fait. Et la rue avait réagi sans attendre un mot d'ordre des partis d'opposition. L'exaspération du peuple congolais qui essaie, en fait, de se réapproprier son histoire après trois démocratisations ratées, ou trois tentatives de démocratisation qui n'ont pas abouti, avec le fait que depuis plus de 10 ans, ils ont un régime qui n'a pas réussi à améliorer leurs conditions de vie, sauf à la minorité des amis du régime. Tout ça finit par peser quand même et par s'accumuler. On se retrouve évidemment dans la stratégie de la cocotte minute.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un compromis soit trouvé entre le pouvoir et l'opposition malgré le dialogue national, vous l'avez dit, qui fonctionne mal ?
Le dialogue national est là pour justement parvenir à un compromis. Son succès, ça serait d'arriver à un compromis, mais le message de la rue était particulièrement clair. Non seulement la rue rejette le régime actuel, mais elle rejette aussi tous les politiciens d'opposition qui voudraient pactiser avec le régime actuel pour organiser une transition plus ou moins longue et donc s'asseoir au pouvoir avec le président Kabila. Ce que réclame la rue congolaise, c'est d'avoir des élections le plus tôt possible et évidemment que le président n'en fasse pas partie, ce qu'il ne peut pas selon la Constitution. Et c'est pour ça que cette revendication populaire est assez largement reprise par les évêques congolais. La CENCO, la conférence des évêques, a annoncé son retrait du dialogue, précisément en mettant en avant les mêmes conditions que celles de l'homme de la rue à Kinshasa, c'est-à-dire que le président Kabila ne fasse pas partie des prochaines élections et qu'on annonce une date pour ces élections le plus tôt possible.
Et pourquoi ça semble impossible d'organiser à temps, c'est-à-dire avant fin 2016, cette élection présidentielle ?
Parce que pour pouvoir l'organiser avant la fin de l'année, il aurait fallu donner le budget nécessaire à la commission électorale, il aurait fallu faire le recensement des électeurs, il aurait fallu faire toute une série de préparatifs électoraux qui n'ont pas été faits par les autorités.
Est-ce que cette crise qui se mue en crise politique, électorale, est-ce qu'elle aurait pu être évitée? Et ces violences-là, est-ce qu'elles auraient pu être évitées aussi?
Non, je ne pense pas, parce que la volonté du président Kabila de rester au pouvoir était assez évidente depuis longtemps. Par conséquent, il y a eu plusieurs tentatives de sa part pour, comme je disais tout à l'heure, manipuler soit la loi électorale en début 2015, soit pour éventuellement faire une révision constitutionnelle, mais il a senti que c'était pas possible. Donc sa volonté de rester au pouvoir était assez claire depuis 2 ans. Le fait qu'on ne donne pas de moyens à la commission électorale pour faire son travail était aussi un signal assez clair. Donc il n'y a aucune surprise, si je puis dire, dans cette crise. C'est une crise qu'on a vu venir de loin, et c'est assez évident qu'il va y avoir une confrontation qui va aller crescendo. Ce qu'on a vécu ces 2 jours ne sont que le premier épisode d'une ambiance insurrectionnelle qui est en train de s'installer.
Et la communauté internationale, elle se préoccupe et s'inquiète aujourd'hui de ce maintien possible de Kabila et de ces violences meurtrières. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu justement une prévention avant?
Parce que comme d'habitude, on veut éviter d'avoir une relation inconfortable avec le régime jusqu'au moment où il est évident qu'on sera forcé à avoir une relation inconfortable avec le régime. Et donc c'est pour ça que la médiation de l'Union africaine est venue trop tard. C'est aussi pour ça que l'opposition considère que les termes de cette médiation sont un peu trop biaisés en faveur du régime. Grosso modo, on peut dire que si cette crise est évidente et tout le monde l'a vu venir, il y a peu d'acteurs qui veulent s'impliquer dans cette crise et qui veulent essayer de la résoudre.